Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode solo du podcast Fleur d'avocat. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas encore pris le temps de m'en occuper, ça fait partie des nombreuses choses côté rebranding dont je dois m'occuper, mais le podcast a plutôt vocation à devenir Fleur d'avocat par Lila Louise Maréchaux, qui est mon nom sur la vignette et qui est ma tête aussi. Voilà, je vous ai annoncé en avant-première les évolutions du podcast. Pour ceux qui, un petit peu brutalement, débarquent dans ce podcast comme ça, qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Lila Louise Maréchaux, je suis ancienne avocate, j'ai aujourd'hui une entreprise qui s'appelle Iris et Thémis, dans laquelle on fait de la diffusion d'offres de recrutement en cabinet d'avocat, avec toute une partie marque employeur, on va vraiment présenter les recruteurs, etc. Vous avez même accès à des témoignages de collaborateurs, de stagiaires, d'anciens collaborateurs et d'anciens stagiaires sur les offres. Et voilà, et j'ai aussi cette activité avec Fleur d'avocat, qui est un podcast qui existe depuis 2018. Initialement, j'interviewais des avocats bien dans leur robe, et puis depuis janvier, je fais aussi des épisodes solo comme celui-ci, pour une raison que j'ai expliquée dans l'épisode bilan. Voilà, donc, maintenant, c'est un podcast mixte avec à la fois du solo et à la fois du duo. Alors, côté duo, j'en profite pour vous donner des petites nouvelles à celles et ceux qui écoutent aussi les interviews. J'ai complètement lâché la rampe sur l'organisation des interviews. C'est terrible. C'est terrible. J'avoue que ce premier trimestre 2024 est passé à une vitesse folle. Et j'ai pas du tout réussi à me remettre dans la discipline de cette organisation. Donc, là, par exemple, je n'ai plus qu'un épisode en stock. Chose qui n'est jamais arrivée, je pense, en 5 ans d'existence. Donc, rassurez-vous, l'idée, c'est pas que j'abandonne les interviews parce que j'adore cet exercice. Je pense qu'il était juste temps que j'arrive au bout du bout du bout du truc avant déléguer. Et ça y est, j'ai délégué, j'ai confié à Caroline qui gère déjà toute la sponsorisation pour moi, le soin de contacter les invités et d'organiser tout, de tout organiser. Donc voilà, c'est entre les mains de Caroline maintenant. Je lui ai donné accès au fichier magique dans lequel il y a un nombre de recommandations absolument délirant. En lui donnant toutes les instructions sur voilà, le fait que je me suis tenue jusqu'à maintenant à ce qu'il y ait au moins un épisode sur 5 qui soit un avocat pas blanc, d'alterner, alors, sauf ces dernières semaines, mais d'avoir une alternance stricte homme-femme, de varier petite, moyenne et grande structure, droit des affaires, droit des personnes, enfin voilà, tout ce travail pour une ligne éditoriale variée. Donc je lui ai tout expliqué et maintenant c'est entre ses mains. Donc voilà, elle a déjà calé 2 interviews, c'est trop cool. Et voilà, en attendant que ça se fasse, il est possible, je sais pas, j'ai pas regardé le calendrier, mais il est possible que du coup, il y ait peut-être un petit 2 semaines de suite, que ce soit du solo, le temps que je rempile sur un peu de stock d'interviews. On verra. En tout cas, ça c'est pour la nouvelle. Quelles autres nouvelles je peux vous donner? Ce n'était pas vraiment une nouvelle. Je reprends ce soir le yoga. Je vous avais dit que j'allais m'y remettre. Et la professeure que j'ai contactée, parce que j'ai trouvé un studio à 10 minutes de chez moi, la professeure que j'ai contactée n'avait pas répondu à mon email et j'ai fini par appeler et elle a répondu et elle m'a dit qu'elle n'avait pas reçu mon email et elle m'a tout expliqué et donc elle a notamment un cours le mardi soir à 20h15 et un autre le jeudi soir à 20h15 aussi. Et du coup, c'est bien pour moi ça. Donc, on est un mardi. Normalement, vous écoutez ce podcast après-demain. Donc, pour vous, c'est avant-hier. Figurez-vous que j'ai donc fait mon cours de yoga Et voilà, et je suis contente de m'y remettre et je vais essayer. Enfin, je vais me botter les fesses pour être régulière. Je dis ça, mais je suis assez régulière avec ma petite application, mine de rien. J'ai changé d'application. Ceux qui lisent les newsletters savent, j'ai changé d'application. Tout simplement parce que j'avais paramétré le truc pour que ce soit des séances de 15 à 20 minutes. Et en fait, à chaque fois, je me retrouvais avec des séances de 25 à 35 minutes. Et voilà. Et rien que par principe, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée de paramétrer un truc et que, alors qu'ils en ont des séances de moins de 20 minutes, donc je comprends pas. Voilà, donc en ce moment, je travaille avec BetterMe, qui est une application, c'est censé être du pilates au mur. Donc voilà, c'est pas mal. C'est plus, j'ai l'impression que c'est plus calme que l'autre, mais bon, je sais pas trop. Bref, le yoga, ce sera sûrement beaucoup plus constructif. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme nouvelle? On avance sur des sujets de réorganisation avec Iris et Thémis, ce qui est quand même plutôt une très bonne nouvelle. On a onboardé une assistante qui s'appelle Vanessa et qui, jusqu'à maintenant, fait du très bon travail. Et je suis en train d'onboarder une rédactrice pour toute la rédaction des offres et des pages recruteurs. Margot, qui travaille avec moi sur Fleur d'Avocat depuis un moment et à qui j'ai proposé ça. Et voilà, et Margot est super. Donc, c'est un peu. Elle est habituée à l'exercice du portrait. Maintenant, la plus grande question, c'est est-ce que. Et j'en ai évidemment pas de doute, mais. Voilà, de faire en sorte d'adapter sa technique du portrait donc, par rapport à nous, ce qu'on veut mettre en avant dans Iris et Thémis. Et en complément, bah, évidemment, plus la partie rédaction d'offres, sachant que Margot n'est pas juriste de formation, donc même si ça fait plus de 2 ans qu'elle entend des avocats parler de leur activité, qu'elle commence quand même à être sacrément familiarisée avec tout ça, ben voilà, c'est pas son métier. Donc on a un peu d'onboarding à faire sur ces aspects-là. Mais du coup, c'est déjà bien, ça me soulage. Je commence à déjà voir les effets du soulagement et donc c'est bien parce que ça me permet de me recentrer sur d'autres choses sur lesquelles j'ai quand même, à mon sens, plus de valeur ajoutée et qui sont tout aussi nécessaires au bon développement d'Iris et Thémis. Donc voilà, je suis en train de dépasser la phase où recruter au-delà du temps que prend le recrutement, recruter ben en fait les premiers jours et les première semaine après avoir recruté quelqu'un, on n'a pas du tout l'impression d'être soulagé, ça demande même plus de travail parce qu'il faut onboarder la personne. Et en plus, nous, c'est nos premiers recrutements, donc ça va avec, enfin je veux dire, on structure en même temps qu'on recrute, c'est pas comme si on avait des process déjà hyper rodés. Donc voilà, mais là, je sens qu'on est en train de dépasser cette phase et donc c'est trop cool. D'autres bonnes nouvelles avec des chouettes recrutements là qui ont été faits pour Iris et Thémis. Donc ça, c'est aussi trop cool. Et puis, on a vu passer des bonnes candidatures pour des offres récemment parues. Donc, je croise les doigts pour que ça avance. Ce que je peux vous dire là, c'est qu'on sera au Forum des carrières juridiques qui a lieu à Paris mercredi prochain, mercredi 28 mars. Il y aura un stand d'Iris et Thémis. Et on vous invite à venir nous voir si vous êtes à l'écoute du marché ou tout simplement si vous aimez notre travail et juste que vous voulez nous voir. On va faire en sorte d'avoir un stand hyper cool et pas juste parce qu'on aura un beau, je sais pas comment on appelle ça, un beau fond de stand. Donc voilà, je vous en dis pas trop plus pour le moment parce que j'attends qu'on ait vraiment. Je ne veux pas vous vendre du rêve, mais bon, il n'y a pas de raison que ce qu'on a en tête ne se réalise pas. Donc voilà, mais franchement, passez voir. Ce qui est sûr, c'est qu'indépendamment de à quel point notre stand va être cool, indépendamment de ça, on va se donner pour mission ce jour-là de vous conseiller sur la rédaction de votre CV et de vos lettres de motivation slash email de couverture parce que on n'en voit pas passer beaucoup qui sont vraiment bien. Voilà. Et donc, on va essayer de mettre notre pierre à l'édifice en faisant plein de petits ateliers CV. Alors, ce n'est pas des ateliers CV collectifs. Hein. L'idée, c'est vous venez nous voir et puis, hop, en tête à tête, on travaille ensemble sur votre documentation. je sais pas si on appelle ça la documentation, mais bref, sur votre CV, votre lettre de motivation et ou votre email de couverture. Et comme ça, vous repartez avec quelque chose de quali. Voilà, moi j'avoue, j'en ai marre de voir des CV et des lettres de motivation qui répondent à tous les critères qui ont été enseignés hein, sur comment faire un CV et une lettre de motivation. Mais en fait, vu de l'œil du recruteur, c'est finalement pas du tout adapté. Enfin, pas du tout adapté. J'exagère, hein. Les recruteurs, du coup, font l'effort. Mais je pense que vous pouvez marquer encore plus de points si vous faites l'effort de vraiment rédiger ça de façon appropriée. Et donc, voilà, c'est ce sur quoi on travaillera mercredi prochain autour de notre stand. Et puis, j'imagine qu'on fera d'autres trucs dans ce genre-là. Donc voilà, en tout cas, venez nous voir au stand Iris et Thémis. Du forum des carrières juridiques. On y sera. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Aujourd'hui, le sujet du jour, mais soufflé par Marie. Marie qui m'a écrit le message suivant. Je vais vous le lire. Sur LinkedIn. Marie m'a écrit « Chère Lila Louise, j'ai écouté ton dernier épisode solo et j'aimerais aussi partager un point qui est rarement soulevé dans la profession. En effet, il est beaucoup question en matière d'objectifs pour le collaborateur de facturable facturé. Or, non seulement, comme tu l'indiquais, cet objectif est soumis aux compétences commerciales du collaborant, mais s'ajoute à cela le fait que très souvent, le collaborateur participe également à cet effort commercial puisqu'il est demandé, il lui est demandé de préparer les appels d'offres, de rédiger des articles, etc. C'est donc une part du temps du collaborateur qui est affectée à des tâches qui n'intégreront pas le calcul de l'objectif donné au collaborateur. J'aimerais beaucoup t'entendre dans un épisode solo sur la question de la participation du collaborateur au travail d'acquisition et comment celui-là pourrait être valorisé. » Donc voilà, je me suis dit que j'allais tout simplement prendre ce sujet et en faire le sujet du jour. Ce qui est l'occasion de vous dire... vos retours font toujours hyper méga plaisir. Au-delà de faire plaisir, moi j'envisage ce podcast et ces épisodes solo comme des discussions ouvertes. C'est aussi pour ça que j'essaye de vous faire remonter quand il y a des retours un peu substantiels que je reçois pour que ça participe d'une espèce de grande conversation collective autour de ces sujets. Donc je suis très à l'écoute de tous vos retours, que ce soit sur le fond, que ce soit sur la forme. Et bien évidemment, s'il y a des points que vous souhaitez que je creuse ou que j'aborde tout court, comme là c'est le cas aujourd'hui, je suis très à l'écoute. Donc, je vais pas vous dire n'hésitez pas à m'écrire parce que vous savez que je déteste la formule n'hésitez pas et que je vous invite à tous la supprimer pour quelque chose de plus actif. Mais du coup, en formule active, ça donne écrivez-moi. Si y a un sujet que vous souhaitez que j'aborde ou une observation que vous souhaitez faire, moi ça me fait hyper plaisir et c'est vraiment, c'est ce qui fait que je suis pas là toute seule derrière mon micro à parler. Je suis pas tout à fait toute seule parce que mon chat est avec moi, mais vous voyez l'idée. Donc je vais aborder ce sujet et je vais aussi avant ça, partager avec vous le message de Mathilde. Mathilde qui écoute le podcast pendant qu'elle fait son footing et comme mes épisodes sont toujours très longs, elle court beaucoup. bref, Mathilde qui dit, et merci Mathilde pour ce retour, mais pour tous tes retours parce que c'est trop cool ces discussions avec les auditeurs et j'adore. Merci beaucoup pour ton contenu, toujours aussi intéressant et instructif. J'espère que tu es guérie car tu avais l'air un petit peu enrhumée dans cet épisode. Ça fait pas longtemps que je suis guérie, mais j'ai fini par m'en sortir. Je me suis particulièrement reconnue dans le passage sur le développement du perso en parallèle de la collab pour anticiper son installation ou en tout cas son avenir et ne pas compter que sur la rétro puisque c'est exactement ce que je suis en train de mettre en place en ce moment et ça commence à bien marcher donc c'est cool. Par contre, c'est tellement chronophage. Bravo Mathilde pour tous tes efforts. Voilà, comme tu dis, c'est du temps et c'est de l'effort, mais ton futur toi te remerciera s'il ne te remercie pas déjà. Concernant l'anticipation, je vous passe ça. J'ai bien aimé la réponse que tu as apportée d'un point de vue du chef d'entreprise. Je ne sais pas si mon dernier message est bien écrit. J'espère que je suis compréhensible, tout à fait. Ah oui, PS, c'est ça que je voulais vous dire, pardon. J'ai trouvé super que tu casses le mythe de l'appel d'air car il n'est pas systématique. Ici, j'ai plein de confrères qui se sont installés du jour au lendemain et qui galèrent car ils n'ont pas anticipé leur projet ou qu'ils n'ont pas mis en place de process pour gérer leur temps et développer convenablement leur clientèle. Je te ferai une note vocale à ce sujet car je pense à un exemple qui peut être intéressant à transmettre à tes clients ou aux personnes que tu accompagnes. Mathilde, j'attends toujours ton vocal. Où est ce vocal ? Bref, voilà. Et elle me disait qu'elle ne pouvait pas mettre plusieurs fois 5 étoiles sur mon podcast via Spotify, mais qu'elle pouvait commenter chaque épisode, ce que je ne savais pas. Et donc, elle le fait systématiquement. Et voilà. Et donc, ça m'invite aussi à vous dire... soyez sympa et laissez-moi 5 étoiles sur Spotify et aussi sur Apple Podcast et aussi avec un petit mot. Je crois que depuis la dernière fois, il y a eu 7 étoiles. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été notifiée entre tout confondu Spotify et... Spotify et Apple Podcast de 7 notes. Et franchement, je sais que vous êtes vachement plus nombreux à écouter ce podcast. Donc, juste, voilà, ça prend vraiment 2 secondes. Alors que moi, ça me prend plus d'une heure d'enregistrer à chaque fois. Vous allez me dire que c'est parce que je parle trop, mais en tout cas, ça me demande aussi un travail de préparation. Et puis voilà, je pense que je vous apporte de la valeur. Donc soyez cool et apportez-moi de la valeur en retour. Soyons dans une dynamique de win-win et cette dynamique de win-win est tout à fait au cœur de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai fait un vrai tirage au sort pour. J'avais dit qu'il y avait encore un gagnant de la formation sur les honoraires et c'est aussi. Et j'ai fait un vrai tirage au sort. Hein. Je vous promets que c'est pas truqué et que c'est pas du favoritisme, mais c'est Mathilde qui a gagné d'ailleurs. Sa formation. Donc félicitations Mathilde. J'en fais un troisième et dernier. Donc si vous laissez globalement, vous prenez une copie écran de vos 5 étoiles sur Spotify ou vous laissez 5 étoiles et un avis et votre avis sur Apple Podcast, je vais le voir. Et dans 2 semaines, je fais le point sur tout ça et je fais un tirage au sort parmi les personnes qui ont fait ça. Et de ce tirage au sort, une personne gagne une formation sur les honoraires qui normalement coûte 400 ou 450 euros. Voilà quoi, c'est plutôt un joli cadeau. Et ensuite, ce sera fini. Il faudra juste que je compte sur votre sens de la réciprocité et du respect du travail des autres. Pour les notes et tout ça et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Abordons maintenant le cœur du sujet, si le chat veut bien me laisser reprendre mes notes. Donc le cœur du sujet, c'est cette histoire de contribution des collaborateurs aux opérations de développement d'affaires d'un cabinet. Et comment est-ce que ça peut être valorisé par un cabinet ? Alors, vous savez que dans une entreprise, il y a plusieurs fonctions. Vous avez la fonction de la direction qui manage, qui décide de où est-ce qu'on va et de comment on y va et qui fixe la stratégie. Vous avez la fonction de la finance qui gère donc les entrées d'argent, les sorties d'argent, les investissements, la trésorerie, tout ça, tout ça. Vous avez tout ce qui est RH. Sur les recrutements, voilà comment on remplit les besoins en termes de bras et de cerveau. Vous avez la fonction de la production. Donc, dans un cabinet d'avocats, la production, c'est typiquement ceux qui produisent du droit, donc les avocats, les juristes, les collaborateurs qui sont des avocats aussi. Donc, bref, ceux qui produisent, ce qui font, ce qui est vendu par l'entreprise. Vous avez tout ce qui est marketing et communication. La communication, pour moi, ça fait partie du marketing, mais en général, c'est souvent mis sous la bannière marketing.com. Donc, le marketing. Et vous avez aussi les commerciaux. Bon, j'imagine qu'il y a plein d'autres, les services informatiques, etc. etc. Les commerciaux, c'est ceux qui vont, on va dire, closer le deal, donc et vraiment finaliser l'acte de vente. Et voilà, donc ça, c'est toutes les fonctions qui existent dans une entreprise. Alors, quand une entreprise est une entreprise unipersonnelle, toutes ces fonctions sont réunies dans une seule et même personne. Parfois, cette personne unipersonnelle n'est pas toute seule. Elle a des fournisseurs, des prestataires externes pour remplir ses fonctions. Et ça peut marcher sur à peu près tout ça, hein, tant la RH que la finance, que les commerciaux, sauf la direction. J'avoue que c'est compliqué de déléguer la direction d'une entreprise à quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est pas forcément des fonctions séparées. Ça peut être porté par des personnes différentes. Ça peut être porté par... concentré sur une ou plusieurs personnes, une ou plusieurs personnes peuvent cumuler ces fonctions. Mais en tout cas, il faut que ces fonctions soient représentées. La particularité d'une collaboration libérale, c'est que globalement, demander en collaboration libérale, l'avocat est sa propre entreprise. C'est-à-dire que le collaborateur a sa propre entreprise, c'est son propre cabinet. D'où le fait qu'il peut avoir sa clientèle propre. Il a la clientèle de son cabinet et d'une certaine façon, le cabinet avec lequel il est en collaboration est son plus gros client, a priori. Et en tout cas, est un client de son cabinet. Et donc, en fait, solliciter le collaborateur sur des opérations de business development, c'est un petit peu comme si on demandait à une entreprise de faire le marketing d'une autre entreprise. Si on schématise vraiment de façon très brute les choses, c'est un petit peu ça. Alors, les entreprises qui font du marketing pour d'autres entreprises, ça existe, hein, c'est des agences de marketing, des agences de communication. Mais en fait, ces entreprises-là, leur objet social, c'est de faire des services de marketing ou de communication ou de vente, en tout cas de faire des opérations de business development. Ce qui n'est pas le cas d'un avocat, puisque l'objet social de l'avocat, c'est activité juridique, c'est de rendre de faire du conseil et des prestations juridiques. Donc, globalement, c'est un petit peu comme si vous aviez un avocat qui faisait du marketing pour une autre entreprise que la sienne. Enfin bref, c'est un peu comme si vous aviez le cabinet d'avocats qui achète de la prestation, qui confiait de la prestation de marketing à une autre entreprise. Sauf que cette entreprise, c'est pas son objet social. Normalement, son objet social, c'est de vendre des services juridiques. Sinon, elle a pas besoin d'être avocat, hein. Elle peut être une entreprise comme les autres et elle aura d'ailleurs beaucoup moins de charges pour exister. Et d'ailleurs, il existe des avocats ou d'anciens avocats plutôt, ou d'anciens juristes qui se convertissent vers les métiers de la communication pour les professionnels du droit et qui ne font que du web marketing, du marketing au global. Et ça va de rédaction d'articles pour les réseaux sociaux à gestion des comptes d'un réseau social à je sais pas moi, plein de choses qui relèvent du business development, de la stratégie de marketing, de la mise en place de campagnes de prospection, bref, plein de choses qui relèvent du marketing et de la vente. Donc, voilà, donc c'est quand même un peu particulier parce que globalement, vous avez un service support qui est externalisé, non pas à une entreprise dont c'est l'objet social que de rendre des services de marketing, mais à une entreprise dont l'objet social est, en théorie, de faire du fond. Donc voilà, c'est quand même un petit peu particulier en tant que tel et je pense que souvent c'est assez oublié en fait. Vous, quand vous êtes collaborateur libéral, dans l'absolu, si vous avez du marketing à faire, c'est surtout du marketing pour votre propre activité. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas pertinent de faire du marketing pour de participer aux opérations de BD pour un cabinet dans lequel on collabore. Pas du tout, parce que ça peut être complètement stratégique en fonction de ce que vous voulez faire de votre propre cabinet. Je pense juste qu'il faut quand même l'avoir en tête parce que c'est une particularité. Donc, cela étant dit, qu'est-ce qui fait qu'on peut valoriser le BD et intéresser un collaborateur à faire du marketing pour son collaborant plutôt que pour lui-même ? Eh bien, et comme d'habitude, de façon globale avec un collaborateur, il faut chercher la relation win-win. Alors, la première raison qui fait qu'un collaborateur pourrait participer au BD, c'est les perspectives d'évolution interne. Donc, un, encore faut-il que ce collaborateur ait envie d'évoluer en interne. Première chose. Et deuxième chose, dans ce cas-là, encore faut-il voir quelle est la perspective là-dessus, quoi. C'est-à-dire que, et je viens juste de publier un post sur la notion de perspective d'évolution dans les offres de collaboration, peut-être que j'y reviendrai un jour dans un épisode solo. Pour moi, les seules perspectives d'évolution interne qui justifient que vous, comme collaborateur, vous vous disiez que vous allez, qu'un collaborateur se dise qu'il va participer des opérations de marketing, de business development, de visibilité, bref, d'attraction de nouveaux clients, de rayonnement de la marque de son cabinet, et de voilà. C'est globalement que si le cabinet devient un plus gros gâteau, a priori, et qu'on participe au fait de faire grossir le gâteau que représente le cabinet, a priori, on peut se dire qu'il y a une part de ce gâteau qui ensuite va nous appartenir d'une certaine façon. C'est-à-dire que on contribue à créer, à cuisiner, à pâtisser un nouveau gâteau, et ce nouveau gâteau devient un peu notre gâteau à nous aussi. Par une forme d'effet de transmission, tout simplement parce qu'on a contribué à le cuisiner, parce qu'on a participé à son élaboration. Et ça, c'est super. Et il y a plein de cabinets qui font ça et qui le font de façon très honnête. Très, très honnête. Je pense, par exemple, au cabinet Rivière Avocat Associé, un cabinet à Bordeaux, qui travaille beaucoup dans le secteur de l'immobilier. Et typiquement, vous avez tout le pôle de droit public qui a grandi parce que les collaborateurs se sont aussi associés aux efforts de business development. Et au fur et à mesure que le pôle a grandi, il s'est structuré. Et il y a des sortes de pôles d'activité qui ont été ensuite confiés aux associés. Et les clients du cabinet, enfin, d'initialement un associé, sont entre guillemets devenus les clients des autres associés. Et ça a été du chiffre d'affaires qui leur a été attribué, et ça a fait d'eux des associés. Donc les collaborateurs ont contribué à créer un gâteau, et ensuite ce gâteau, on leur a dit bah, tiens, tu sais quoi, c'est ton gâteau. Donc ça marche, hein, et vraiment, encore une fois, voilà. La seule chose, c'est que effectivement, encore faut-il que le cabinet soit dans cette dynamique là donc vous, enfin, en tout cas, le collaborateur, attention à... en tout cas, si vous le faites dans une perspective de... le fait de participer au développement du cabinet va participer à mon propre développement, parce que si le cabinet se développe et que je contribue à son développement, je vais moi aussi en devenir associé, parce qu'il va y avoir une forme de transmission. Je n'ai pas développé ma propre clientèle personnelle, mais la clientèle que j'ai contribué à développer pour le cabinet devient ma clientèle par ce biais-là, et c'est super, juste que ce soit clair pour vous, que vous vous inscrivez dans cette dynamique, et à checker avec le cabinet qui s'inscrive aussi dans cette dynamique, parce que ce qui crée beaucoup d'amertume, et j'ai parlé avec un certain nombre d'avocats, et notamment d'avocats seniors, on participe aux opérations de business dev, on nous dit que c'est très bien, même on nous invite à le faire, voire on nous le demande de façon très expresse, mais en fait le gâteau n'est absolument pas partagé, il grossit au bénéfice d'une seule personne. voire on préfère aller chercher quelqu'un à l'extérieur pour finalement récupérer une partie du gâteau que j'ai contribué à créer. Worst case scenario, évidemment. Et voilà, et en fait, il n'y a juste pas de partage du gâteau, quoi. Donc, attention à ça. Cette histoire de partage du gâteau, je crois que c'est un sujet dont j'avais parlé avec Thierry Roman de chez CMS Francis Lefebvre. C'est un épisode, j'ai plus en tête le numéro de l'épisode, mais je vous invite à l'écouter. Donc voilà, en fait, la perspective d'évolution interne, elle vient par là. Alors, encore une fois, attention aux belles paroles. Parce que, in fine, ce qui est valorisé, c'est pas juste que vous ayez participé au chiffre d'affaires. Alors, je dis vous, je sais qu'il y a des collaborants qui écoutent aussi ce podcast, plutôt des personnes qui sont côté recruteurs qui écoutent ce podcast. C'est juste que j'avoue, je pense que j'ai Marie en tête qui m'a posé cette question. Et c'est un peu comme si je m'adressais à elle, là, en face de moi. Et d'où le fait que j'ai plutôt l'impression de m'adresser à un collaborateur, enfin à une collaboratrice. Donc voilà, mais vous avez compris l'idée. Ce qui est valorisé, in fine, quand même, notamment pour cette fameuse évolution interne, pour ne pas dire association, c'est le chiffre d'affaires en pièces sonnantes et trébuchantes qui est généré. Le simple fait de signer un article et de participer à du BD ne suffit pas à évoluer en interne Et encore une fois, si vous êtes dans un cabinet qui a une éthique de parcours d'évolution de ses collaborateurs qui est moins stricte que celle de cabinet que j'ai pu mentionner, vous pouvez vous retrouver dans la situation où oui, vous avez participé à du BD, mais en fait, ceux qui sont associés, c'est ceux qui amènent un portefeuille de chiffre d'affaires qui est actuel et qui est réel et dont ils peuvent de façon très directe dire que c'est à eux. Et c'est aussi ce qui fait que vous avez des cabinets qui privilégient la croissance externe à la croissance interne. Parce que, en fait, les collaborateurs seniors / des counsels qui n'ont pas vraiment développé de chiffre d'affaires propre à apporter au cabinet dans le cadre de leur association, il y en a plein. Ils ont contribué au rayonnement et au développement de leur cabinet, mais ils n'ont pas constituer vraiment un portefeuille qu'ensuite, à un moment, ils apportent. Alors que vous avez potentiellement d'autres personnes sur le marché qui disent, bah oui, moi non seulement, enfin moi je viens peut-être pas de chez vous, mais par contre j'ai tel client et voilà le chiffre d'affaires que j'ai fait l'année dernière et celle d'avant et globalement voilà ce que j'apporte. Et en fait, des seniors qui se retrouvent complètement bypassés au profit de la croissance externe où en fait on a un rattachement entre du chiffre d'affaires et une personne qui est beaucoup plus directe que juste le fait d'avoir contribué à du BD. Donc voilà, c'est un peu le risque de ça. Se faire bien voir, ce qui est sûr, c'est que se faire bien voir, ne participez pas à du BD juste pour vous faire bien voir, c'est-à-dire ayez une logique quand même un peu plus stratégique derrière que de se faire bien voir, parce que la majorité du temps, encore une fois, la simple participation à du BD, ça suffit pas à évoluer, et c'est d'autres choses qu'on va regarder, et notamment des choses beaucoup plus en lien avec des pièces sonnantes et trébuchantes. Donc voilà, ou vous êtes dans une perspective claire d'évolution interne et vous vous dites votre stratégie c'est ça et c'est quelque chose que vous monitorez avec le cabinet et vous cherchez à, entre guillemets, objectiver les choses pour qu'à un moment ça se traduise en réelle association. Et en ayant conscience que ça se trouve, ce chiffre d'affaires que vous aurez créé, vous ne serez jamais directement attribué et que voilà, il n'y ait pas de transmission de ce gâteau, soyez prêt à être déçu, quoi. Je suis désolée d'être pessimiste comme ça, mais j'avoue, à force d'échanges, je finis par... par être un peu réaliste. L'autre chose qui peut être intéressante pour un collaborateur de contribuer au BD vous avez compris, quand je parle de BD, je parle de business development, c'est-à-dire toutes ces opérations de marketing, du cabinet dans lequel il est collaborateur. C'est tout simplement en fonction de la structure dans laquelle vous êtes, la structure, enfin, c'est aussi un win-win pour vous que de vous associer au nom de votre collaborant ou de votre structure. Je dis l'un ou l'autre parce qu'il y a des cabinets dans lesquels c'est le nom du cabinet qui, entre guillemets, est notoire, etc. etc. Puis dans certains cas, c'est moins le cabinet qu'un associé en particulier dans une matière qui a une fame, où c'est bien de dire, bah voilà, en fait, moi j'ai été formée et j'ai travaillé avec un tel. Et en fait, ça peut complètement être, enfin, faire partie des choses que vous mettez en place, pas forcément pour évoluer en interne, mais juste pour briller, vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous, quand vous faites ça, si vous faites du BD et que c'est visible de l'extérieur, pour votre structure ou pour l'activité de, de la personne avec qui vous collaborez, bah, d'une certaine manière, entre guillemets, vous mettez votre nom à côté d'un autre nom qui a une notoriété et une renommée et une, enfin voilà, qui est quelque chose de valorisé. Et donc, c'est une manière de parasiter, dans le bon sens du terme, la marque, cette marque-là, et de faire en sorte qu'elle rejaillisse sur vous. Et voilà, donc ça va plutôt dans votre sens. Typiquement, un collaborateur chez Bredin Pratt ou chez Gide ou chez White & Case, et j'ai envie de dire, peut-être que c'est selon les matières, etc., mais vous avez compris l'idée. Et je dis ça, j'ai donné que des exemples de gros cabinets, mais ça marche aussi avec des petites structures, encore une fois, parce que la taille ne fait pas la qualité et la renommée de qualité sur un marché. Vous avez intérêt à communiquer, à faire du BD avec le cabinet, et surtout de le faire aussi en votre nom, parce que ça rejaillit sur vous vous allez bénéficier d'une aura de qualité du simple fait d'associer votre nom, enfin de faire du marketing pour cette structure ou pour cet avocat. Attention avec ça, par contre, il faut que ce soit visible. Sinon, c'est juste comment vous êtes-vous perçu en interne. Mais il faut que ce soit visible, c'est-à-dire que, mettons que vous avez coécrit un article, que ce soit pour de la presse grand public ou pour de la presse spécialisée ou pour de la doctrine, il faut qu'il y ait une co-signature. Le fait de publier, de communiquer aussi en votre nom sur les réseaux sociaux, enfin sur votre réseau social. Donc typiquement, je pense à LinkedIn. C'est pas juste liker la publication du cabinet. Ça peut être aussi vous-même faire une publication dans laquelle vous trouvez une manière élégante de mettre en avant votre contribution à tel article, telle conférence, tel truc, tel machin. Évidemment, l'élégance de l'élégance. Et c'est quand le cabinet vous met en avant aussi, enfin je veux dire, dans les deux cas. Mais cela dit, c'est pas parce que le cabinet le fait qu'il faut pas le faire vous. Il y a la communication du cabinet qui vous met en avant dans le cadre d'une opération donnée. Et puis il y a vous qui prenez aussi la parole et qui à la fois mettez en lumière votre contribution et puis mettez en lumière le fait que cette contribution a été faite avec ce cabinet. Et donc, je veux dire, pourquoi faire une fois quelque chose qui peut être fait deux fois et être deux fois plus impactant. Donc, vous avez compris, la réserve à ça, c'est bien évidemment que vous soyez dans une dynamique. Enfin, il faut que ce soit des choses visibles parce que sinon, vous ne pouvez pas bénéficier de cette marque qui rejaillit sur vous. Et donc, voilà. Ça, globalement, pour moi, c'est les deux grandes choses qui font que vous avez intérêt comme collaborateur à participer au BD de la structure dans laquelle vous êtes. Ça vous demande, encore une fois, ça vous demande un petit peu de sens stratégique. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez où est-ce que vous allez, en tout cas que vous ayez une idée aujourd'hui de où est-ce que vous allez. Vous pouvez toujours changer d'avis après-demain. Mais en fonction, vous allez effectivement passer plus ou moins de temps à faire du BD pour le cabinet. Enfin, je veux dire, vraiment, si vous voulez vous installer dans 6 mois, c'est pas forcément le moment de développer, de déployer votre énergie pour faire du BD pour le cabinet. Et peut-être que c'est le moment de faire du BD pour vous. Si ce que vous voulez développer, vous ne pourrez le développer que parce que vous êtes adossé à une structure importante, je sais pas, moi, vous faites... vous voulez vraiment évoluer dans le milieu du financement de projets d'énergie, d'énergie et c'est des, je sais pas moi, des gros projets pétroliers par exemple, bon, ben, y a fort à parier que juste tout seul, votre boutique, en tout cas, ça, c'est pas demain la veille que ça va arriver. Alors que c'est des opérations qui sont plutôt confiées à un certain type de structure et donc globalement, si vous voulez ça, il faut que vous vous développiez dans ce type de structure et donc ben, développer ça avec et pour votre structure globalement. Je vous donne l'exemple là par exemple de Nicolas Jean chez Gide, enfin qui n'est plus chez Gide, qui a créé sa structure qui s'appelle Stork, mais qui parle dans son épisode, il était encore chez Gide à cette époque, de comment lui il a développé tout ça. Vous avez un autre exemple, c'est Anne Lapierre chez Norton Rose, enfin bref, il y en a plusieurs, il y en a plein dans le podcast. Donc voilà, et ayez juste ça en tête. Dans ce sens stratégique, posez-vous la question « what's in it for me ?», c'est-à-dire « qu'est-ce que j'ai à en retirer ?» et posez-vous la question aussi de « attention, est-ce que vous apprenez les bonnes choses ?» J'ai envie de dire, pour moi c'est accessoire, mais parce que c'est tout ce que vous faites vous apprend des choses. Un des trucs qui peut aussi être utile pour vous dans ces opérations de BD, c'est tout simplement le fait d'apprendre à faire du BD dans un cadre qui n'est pas votre propre BD. Donc ça peut, enfin je veux dire, vous pouvez juste apprendre, mettre un pied dans la porte de certaines éditions pour des formations ou pour des rédactions le fait de mettre un pied dans ces rédactions ou dans ces organismes de formation peut être facilité par le fait que vous soyez dans ce genre de structure. Je pense par exemple à Mylène Baucher-Robinet qui avait pas mal commencé à donner des formations quand elle était chez Clifford Chance. Maintenant elle a créé sa boutique en restructuring, pareil un épisode du podcast que je vous invite à écouter. Donc dans tous les cas vous allez apprendre, mais apprenez les bonnes choses. Et mon invitation à ça, c'est que je vois pas mal de cabinets d'avocats qui attendent de leurs stagiaires, voire de leurs collaborateurs, qui deviennent un peu leur community manager. C'est-à-dire que en fait, le stagiaire, il fait plus du droit, il fait des posts Instagram. Alors bien évidemment, il faut faire un peu de droit dans les posts Instagram, mais en fait, il y a presque plus d'apprentissage sur l'algo d'Instagram ou de je sais pas quoi que sur le traitement d'un dossier. Et juste vous, comme collaborateur et même comme stagiaire, faites attention à ça parce que vous êtes quand même là pour développer votre cabinet quoi. Et apprendre à faire savoir, c'est bien et c'est hyper important, surtout si vous apprenez à le faire bien. Mais il ne faut pas que ça vous coupe de l'apprentissage de la production. Alors, côté cabinet, pour valoriser tout ça, alors j'exclus la question de la valorisation par l'apport d'affaires parce que pour moi l'apport d'affaires ça valorise non pas le marketing mais ça valorise la vente, ça valorise le commercial stricto sensu, c'est-à-dire vous êtes collaborateur, vous avez quelqu'un dans votre entourage ou juste un prospect qui vient à vous avec une perspective, enfin avec une opportunité et vous lui vendez un accompagnement et vous le lui vendez entre guillemets ou vous proposez de le vendre, mais que ce ne soit pas vous qui facturiez à titre perso, mais le cabinet. Et pour moi, vous avez closé, vous n'avez pas juste fait le marketing, vous avez closé, donc ça pour moi, c'est la vente, et la meilleure valorisation, ça reste la commission d'apport d'affaires, on ne va pas se le cacher, qui est donc possible intrastructure et avec collaborateurs, si ma compréhension est correcte, en tout cas, qui est largement pratiqué. En tout cas, qui est largement pratiqué. L'autre chose, c'est, mais pour moi, ça n'y répond pas complètement, c'est l'intéressement au chiffre d'affaires qui est traité au-delà d'un certain seuil. C'est quelque chose que je vois de plus en plus, des cabinets qui disent, ben voilà, au-delà de X euros, au-delà de tel montant facturé et encaissé, vous touchez 10-15% du chiffre d'affaires que vous avez traité. Alors pour moi, ça, c'est pas tellement un intéressement au BD, c'est plus, je veux dire, ça récompense plus la force de production que le BD en tant que tel. Alors bien évidemment, de cette importante production, elle peut avoir pour origine le fait que comme vous avez contribué au BD, il y a plein de dossiers à gérer. Et du coup, vous gérez tout ça et voilà, comme vous, entre guillemets, vous excédez les attentes, vous récupérez une partie, vous captez une partie de la valeur de cette production. Mais pour moi, ça récompense de façon directe beaucoup plus la production que le marketing. Et vous pourriez bénéficier exactement de la même structure de rémunération, c'est-à-dire un fixe plus un variable au-delà d'un certain seuil de production facturée et encaissée, sans faire du bidi, juste parce que le cabinet a plein de dossiers et qu'il vous envoie plein de dossiers et que vous travaillez beaucoup. donc voilà, pour moi, c'est presque plus une récompense, enfin une récompense d'une forte capacité de production plus qu'une récompense du marketing, même si les efforts de marketing que vous pouvez faire peuvent être la cause de cette importante masse de travail. L'autre problème de ça, mais bon, c'est entre guillemets accessoire, c'est que forcément, ça va dépendre, on va dire, de la rentabilité des opérations sur lesquelles vous intervenez. Et dans un même cabinet, il faut être conscient que tous les départements et tous les dossiers n'ont pas la même rentabilité, sont pas facturés avec la même aisance. Donc ça peut finir par créer des sortes de déséquilibres entre les collaborateurs, donc une grille de rémunération qui est assez déséquilibrée, ce qui n'est pas nécessairement un problème en soi, parce que c'est un peu un apprentissage de la vie que à temps de travail égal, tout le monde n'est pas rémunéré pareil, juste parce que y a certaines choses qui ont plus de valeur sur un marché que d'autres. Mais voilà, en tout cas, faut en être conscient, et parce que ça peut amener d'autres travers. Mais voilà, encore une fois, pour moi, ça répond pas vraiment à comment est-ce qu'on peut valoriser le bidi. Alors, il y a évidemment l'intéressement aux résultats du cabinet au global. C'est-à-dire que, le collaborateur... Le collaborateur réalise beaucoup, enfin contribue au bidi, et donc a priori, s'il contribue au bidi et s'il le fait, et c'est bien évidemment pas que lui, hein, c'est toute la structure, de façon intelligente, a priori ça va contribuer au rayonnement et au développement du cabinet, et donc à amener de nouveaux clients. Et donc le cabinet fait plus de chiffre d'affaires, et donc intéresser les collaborateurs au chiffre d'affaires du cabinet, parce qu'eux-mêmes participent de ce rayonnement du cabinet, est une manière d'incentiver la participation des collaborateurs à cet effort de développement. Moi, je trouve ça top. J'avoue, je trouve ça top d'intéresser les collaborateurs au développement d'un cabinet. La seule réserve est peut-être... Bon, de toute façon, vous avez compris, il n'y a pas de système parfait. Hein, donc, c'est comme sur les régimes, les différents types de régimes. Il n'y a pas de système parfait, et la démocratie est, paraît-il, vous allez penser que je suis royaliste ou autre, pas du tout, mais en tout cas, la démocratie serait le moins mauvais système. C'est pareil pour tous ces systèmes-là, c'est-à-dire que quel que soit le modèle de rémunération, etc., etc., ça vient avec plein d'avantages, avec aussi des inconvénients, et la question, c'est surtout d'assumer un modèle avec ses avantages et avec ses inconvénients, et voir comment est-ce qu'on peut éventuellement mitiger certains inconvénients, aller poser de la nuance sur certaines choses, poser des correctifs à certains endroits. Mais vous avez compris l'idée. L'éventuel tard de ce système, c'est tout simplement que, si tout le monde, la croissance au global du cabinet, vous n'allez pas pouvoir la rattacher de façon très précise à une opération de bidi ou quoi au caisse. Et donc, peut-être que vous avez des collaborateurs qui ne participent pas du tout au bidi, mais qui vont quand même avoir un intéressement au résultat du cabinet. Et voilà, juste parce que, bah, a priori, c'est le genre de choses qui vont être collectives. C'est des intéressements qui sont collectifs. Donc, certains vont en profiter et puis vous avez d'autres non. Après, ça peut aussi... voilà, a priori, il y a un équilibre qui se forme aussi avec des personnes qui développent plus ou moins d'appétence commerciale et qui vont peut-être faire un peu moins de production et d'autres qui font de la production. Et d'une certaine façon, il faut tout pour faire un monde. Et s'il y a des clients, c'est qu'il faut traiter les dossiers. Et donc, c'est que le service de production est important et vice-versa. Donc voilà, c'est éventuellement la seule tare, c'est que du coup ça rejaillit sur tout le monde, y compris sur des personnes qui potentiellement participent pas au BD, mais on va se dire que c'est un effort collectif, tout le monde a intérêt à ce que le cabinet fonctionne, tout le monde a intérêt soit à faire du BD, soit à faire du bon travail, parce que faire du bon travail au fond, ça, c'est aussi une façon de faire du BD, la satisfaction client est aussi une manière de participer au développement de la structure, et voilà. La troisième chose, et on en revient à un épisode donc récent, c'est celui de préciser la contrepartie à la rétro. Et je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait sur finalement quelle est la contrepartie à la rétrocession d'honoraires, que doit le collaborateur contre la rétrocession d'honoraires, et de le préciser de le préciser. Et là, il y a plein de modèles possibles. C'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous devez, c'est temps de production. Mais vous pouvez aussi vous dire que ce que le collaborateur doit au cabinet, c'est temps de production et temps de marketing. Et quand je dis temps, ça peut être à la fois du temps, mais ça peut aussi s'imaginer en objectif de résultat, d'une certaine façon. Donc, je ne sais pas moi... X heures de production ou X chiffre d'affaires de générer et X actions de développement qui vont être définies comme étant tel type d'article, tel type de participation à tel type de conférence, etc. etc. Et entre guillemets, c'est d'assumer que dans cette collaboration, on attend du collaborateur un effort qui n'est pas un effort de production et de droit et qui n'est pas un travail qui va être directement rentable parce que c'est pas un travail qui est facturable immédiatement. Le propre du marketing, c'est d'être un investissement. C'est pas possible de... à l'échelle, oui, c'est possible de calculer un ROI du marketing, mais opération par opération, ça l'est beaucoup. C'est beaucoup plus difficile. Et donc, par définition, le marketing, la com, c'est un investissement. Et donc, c'est pas quelque chose qui peut rentrer dans du facturé, quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'écris un article aujourd'hui qui est publié je sais pas où que demain ou après-demain, j'ai un client qui rentre et on facture une presta pour ce client. Quand ça arrive, c'est génial, et ça arrive, et c'est génial. Mais il y a aussi du marketing avec des effets qui sont beaucoup plus long-termistes. Et forcément, selon plein de maturité de ce que vous... De là où vous en êtes ou de là où le cabinet en est de sa maturité, on va dire... en termes marketing, donc ça inclut sa maturité en termes de positionnement, sa maturité en termes de connaissance de son persona, sa maturité en termes de notoriété sur son marché, de jauge de confiance, de tout ça, vous n'allez pas avoir la même détente entre une action et une réaction, réaction étant donc l'arrivée d'un nouveau client. Donc voilà, mais globalement, vous comprenez l'idée, on se retrouve à se dire, ok, la collaboration libérale, c'est un avocat qui travaille pour moi et dans le travail qu'il fait pour moi, il y a une part qui est une part de production et qui va correspondre à peu près ça. Et il y a une autre part qui est une part de marketing et qui va correspondre à ça. Je ne sais pas moi, X heures, X initiatives ou quoi ou qu'est-ce. Et donc de, en fait, stricto sensu, préciser les choses. Et du coup, on assume qu'en fait, ces opérations marketing, elles sont incluses en fait dans la rétrocession d'honoraires. La rétrocession d'honoraires rémunère tant le travail juridique qui est effectué et aussi le travail marketing. La douille à éviter quand on est collaborateur, et ce que je vous invite à ne pas faire si vous êtes collaborant parce que je trouve que c'est pas durable et vous risquez de décevoir tout le monde et à long terme ce sera probablement pas chouette, globalement vous avez une rétrocession d'honoraires avec un objectif qui est stricto sensu dirigé vers un nombre d'heures facturables, bref de la production, quelque chose qui est très lié à la production pour des clients. Et vous exigez en plus des efforts de marketing, mais ceux-ci ne sont pas valorisés, ne sont pas pris en compte, auprès d'aucun objectif. Et donc, en fait, il n'y a aucune rémunération en face. Globalement, il faut que vous ayez en tête que c'est contribution contre rémunération. Ça, c'est le schéma de Insaf El Hassini, qui est juriste et qui travaille beaucoup sur les questions de négociation de rémunération. Et elle dit la rémunération, c'est la rétribution d'une contribution de la part d'un salarié, d'un prestataire ou quoi au caisse. Et donc, globalement, le problème, c'est quand vous avez du bidi, du marketing, en face duquel il n'y a absolument aucune rémunération, aucune rétribution, si ce n'est des promesses vagues de perspectives d'évolution ou éventuellement juste pour la personne de pouvoir dire coucou, j'ai aussi signé cet article. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Attention à ça. Et vous, comme collaborateur, d'une certaine manière, et en fait, des deux côtés, tout ça, ça peut se négocier. Enfin, potentiellement, ça peut se négocier. C'est-à-dire que... Et c'est aussi... à vous de le négocier, en fait, d'amener les uns et les autres à préciser ce qu'ils attendent et en fait, qu'est-ce qu'il y a en face, quoi. De l'avoir en tête. Ce qui m'amène, et je finirai là-dessus parce que j'ai un rendez-vous qui va commencer dans 2 minutes, ce qui m'amène à une dernière chose qui est à ce sujet-là, que souvent, les cabinets, à défaut de préciser de façon concrète ce qu'ils attendent de leurs collaborateurs en termes de contrepartie. Donc ça peut être plein de choses. Ils mettent des objectifs d'heures. Donc derrière la notion d'objectif d'heures, mais c'est pas forcément contractuellement précisé, mais en tout cas, si on prend le contrat global, le contrat psychologique global passé entre un cabinet et le collaborateur, vous pouvez avoir des objectifs d'heures. Objectif 1300 heures, objectif 1500, objectif 1700, objectif 2000, bref, en fonction des cabinets, ces objectifs vont être plus ou moins importants et c'est des objectifs d'heures facturables. Ok. Et en fait, ces objectifs, de l'atteinte de ces objectifs dépend, en tout cas sur le papier, le déclenchement du versement d'un bonus. Donc d'une rémunération complémentaire qui peut être pensée comme un 13e mois, un 13 ou 14e mois, etc. etc. Et y a quand même une grande question qui peut se poser, c'est à quel point est-ce que c'est intéressant pour vous de vous dégommer pour atteindre certains objectifs en fonction d'à quel point est-ce qu'ils sont plus ou moins importants. Pour pouvoir toucher un mois de rétro, 2 mois de rétro, et est-ce que à effort équivalent, vous ne développeriez pas finalement plus de chiffre d'affaires en perso ? Ça, c'est une grande question, et je personnellement, je connais un certain nombre de collaborateurs qui ont tranché et qui disent en fait, je n'ai que faire des objectifs qui sont fixés par le cabinet parce que je sais que en développant mon perso, je peux, à effort réalisé beaucoup moins important, toucher bien plus qu'un mois de rétro ou 2 mois de rétro. Alors, dans ces objectifs, à intégrer la notion du marketing. Et en fait, la même question va se poser, c'est-à-dire que pour pouvoir déclencher tel type de bonus, 1 mois ou 2 mois, en fonction de ce que vous dit le cabinet, vous devez faire, enfin, ils prennent en compte des heures que vous, enfin, du temps que vous passez ou certaines opérations que vous passez pour réaliser du marketing, vous pouvez vous poser exactement la même question. Est-ce que ça reste intéressant pour moi de faire ça pour toucher mon bonus ? Et on a vu que ce n'était pas la seule raison d'avoir un intérêt à participer à ça, hein, qu'il y a aussi le développement en interne éventuellement, et qu'il y a aussi le fait de pouvoir bénéficier du rayonnement du cabinet, que le collaborateur bénéficie du rayonnement du cabinet. Mais voilà, est-ce que c'est intéressant pour vous, ou est-ce que vous avez plutôt intérêt à faire votre taf de facturation pour le cabinet qui fait que vous êtes immédiatement rentable, et derrière... en fait, à juste passer du temps sur votre propre perso et à générer des clients que vous allez facturer depuis votre cabinet et dont vous tirez l'intégralité du chiffre d'affaires. Voilà à peu près mes réflexions sur ce sujet. J'espère que c'était clair et que ça vous a intéressé. Je suis très preneuse de vos retours d'expérience sur tout ça. Je sais que, chaque cabinet a sa tambouille et j'ai sûrement pas tout vu de ce qui se pratique. Donc, je suis très preneuse de savoir vous comment ça se passe dans votre cabinet. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place autour du BD ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été formalisées ? Est-ce qu'il y a des demandes qui sont formalisées ? Comment est-ce que c'est valorisé, voire rémunéré ? Qu'est-ce que vous aimez dans le système dont vous bénéficiez ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le système dont vous bénéficiez ? Est-ce que vous avez des frustrations autour de ce sujet-là ? Je serais très heureuse de vous lire et d'en faire une restitution. D'en faire une restitution, bien évidemment, anonyme. Hein, mais... pour que tout le monde puisse s'enrichir de toutes ces pratiques et des expériences des uns et des autres. Je vous dis à dans... Je ne sais pas si la semaine... Non, ce ne sera pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous avez une autre interview. La dernière interview que j'ai en stock. Donc, je vous dis à dans 2 semaines. Et voilà. Et n'oubliez pas, laissez 5 étoiles et... 5 étoiles sur Spotify. Oui, Matcha, je t'ouvre dans un instant. 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles plus un avis sur Apple Podcast. Vous pouvez encore être tiré au sort pour gagner la formation sur les honoraires. Et si vous ne le faites pas pour ça, faites-le juste parce que vous kiffez mon travail ou parce que vous trouvez ça intéressant ou vous me détestez, mais vous aimez me détester, je ne sais pas, peu importe. Mais juste lâcher des petites étoiles et un avis, ça aide au développement de mon travail. Voilà, je vous dis à très bientôt, peut-être au forum des carrières juridiques. J'ai du retard pour mon rendez-vous. Salut.